Première partie, chapitre 10. En arrivant auprès de Robert et de ses amis, je ne leur avouai pas que mon cœur n'était plus avec eux, que mon départ était déjà irrévocablement décidé. Saint-Loup parut me croire, mais j'ai su depuis qu'il avait, dès la première minute, compris que mon incertitude était simulée et que le lendemain, il ne me retrouverait pas. Tandis que, laissant les plats refroidir auprès d'eux, ses amis cherchaient avec lui dans l'indicateur le train que je pourrais prendre pour rentrer à Paris et qu'on entendait dans la nuit étoilée et froide les sifflements des locomotives, je n'éprouvais certes plus la même paix que m'avait donné ici tant de soirs l'amitié des uns, le passage lointain des autres. Il ne manquait pas pourtant ce soir, sous une autre forme, à ce même office. Mon départ m'accabla moins quand je ne fus plus obligée d'y penser seule, quand je sentis employée à ce qui s'effectuait l'activité plus normale et plus saine de mes énergiques amis, les camarades de Robert, et de ces autres êtres forts, les trains, dont l'allée et venue, matin et soir, de Doncières à Paris, émiettaient rétrospectivement ce qu'avait de trop compact et insoutenable mon long isolement d'avec ma grand-mère en des possibilités quotidiennes de retour. « Je ne doute pas de la vérité de tes paroles et que tu ne comptes pas partir encore, » me dit en riant Saint-Loup. « Mais fais comme si tu partais et viens me dire adieu demain matin de bonne heure. Sans cela, je cours le risque de ne pas te revoir. Je déjeune justement en ville. Le capitaine m'a donné l'autorisation. » Il faut que je sois rentré à 2 heures au quartier, car on va en marche toute la journée. Sans doute, le seigneur chez qui je déjeune, à 3 kilomètres d'ici, me ramènera à temps pour être au quartier à 2 heures. » À peine disait-il ces mots qu'on vint me chercher de mon hôtel. On m'avait demandé de la poste au téléphone. J'y courus, car elle allait fermer. Le mot interurbain revenait sans cesse dans les réponses que me donnaient les employés. J'étais au comble de l'anxiété, car c'était ma grand-mère qui me demandait. Le bureau allait fermer. Enfin, j'eus la communication. « C'est toi, grand-mère ?» Une voix de femme, avec un fort accent anglais, me répondit. « Oui, mais je ne reconnais pas votre voix. » Je ne reconnaissais pas davantage la voix qui me parlait. Puis ma grand-mère ne me disait pas « vous ». Enfin, tout s'expliqua. Le jeune homme, que sa grand-mère avait fait demander au téléphone, portait un nom presque identique au mien et habitait une annexe de l'hôtel. M'interpellant le jour même où j'avais voulu téléphoner à ma grand-mère, je n'avais pas douté un seul instant que ce fût elle qui me demandât. Or, c'était par une simple coïncidence que la poste et l'hôtel venaient de faire une double erreur. Le lendemain matin, je me mis en retard. Je ne trouvais pas Saint-Loup déjà parti pour déjeuner dans ce château voisin. Vers 1h30, je me préparais à aller, à tout hasard, au quartier pour y être dès son arrivée. Quand, en traversant une des avenues qui y conduisait, je vis, dans la direction même où j'allais, un tilbury qui, en passant près de moi, m'obligea à me garer. Un sous-officier le conduisait, le monocle à l'œil, c'était Saint-Loup. À côté de lui était l'ami chez qui il avait déjeuné et que j'avais déjà rencontré une fois à l'hôtel où Robert dînait. Je n'osais pas appeler Robert, comme il n'était pas seul. Mais voulant qu'il s'arrêtât pour me prendre avec lui, j'attirai son attention par un grand salut qui était censé motiver par la présence d'un inconnu. Je savais Robert myope. J'aurais pourtant cru que, si seulement il me voyait, il ne manquerait pas de me reconnaître. Or, il vit bien le salut et le rendit, mais sans s'arrêter. Et, s'éloignant à toute vitesse, sans un sourire, sans qu'un muscle de sa physionomie bougeât, Il se contenta de tenir pendant 2 minutes sa main levée au bord de son képi, comme il eût répondu à un soldat qu'il n'eût pas connu. Je courus jusqu'au quartier, mais c'était encore loin. Quand j'arrivai, le régiment se formait dans la cour où on ne me laissa pas rester, et j'étais désolée de n'avoir pu dire adieu à Saint-Loup. Je montai à sa chambre, il n'y était plus. Je pus m'informer de lui à un groupe de soldats malades, des recrues dispensées de marche, le jeune bachelier, un ancien, qui regardait le régiment se former. « Vous n'avez pas vu le maréchal des logis Saint-Loup ? » demandai-je. « Monsieur, il est déjà descendu, » dit l'ancien. « Je ne l'ai pas vu, » dit le bachelier. « Tu ne l'as pas vu ? » dit l'ancien, sans plus s'occuper de moi. « Tu n'as pas vu notre fameux Saint-Loup, ce qu'il dégote avec son nouveau falzar ? Quand le capiston va voir ça, du drap d'officier !»« Ah ! Tu en as de bonnes, du drap d'officier !» dit le jeune bachelier, qui, malade à la chambre, n'allait pas en marche et s'essayait, non sans une certaine inquiétude, à être hardi avec les anciens. « Ce drap d'officier, c'est du drap comme ça !»« Monsieur !» demanda avec colère l'ancien qui avait parlé du falzar. Il était indigné que le jeune bachelier mît en doute que ce falzar fût en drap d'officier. Mais Breton, né dans un village qui s'appelle Pengernstereden, ayant appris le français aussi difficilement que s'il eût été anglais ou allemand, quand il se sentait possédé par une émotion, il disait 2 ou 3 fois « Monsieur !» pour se donner le temps de trouver ses paroles. Puis, après cette préparation, il se livrait à son éloquence, se contentant de répéter quelques mots qu'il connaissait mieux que les autres, mais sans hâte, en prenant ses précautions contre son manque d'habitude de la prononciation. « Ah ! C'est du drap comme ça ! » reprit-il avec une colère dont s'accroissait progressivement l'intensité et la lenteur de son débit. « Ah ! C'est du drap comme ça ! Quand je te dis que c'est du drap d'officier, quand je te le dis, puisque je te le dis, c'est que je le sais, je pense. « Ah ! Alors, » dit le jeune bachelier, vaincu par cette argumentation, « c'est pas à nous qu'il faut faire des boniments à la noix de coco. Tiens, voilà justement le capiston qui passe. Non, mais regarde un peu Saint-Loup, c'est ce coude lancé la jambe, et puis sa tête, dirait-on un sous-off, et le monocle. Ah ! Il va un peu partout. » Je demandai à ces soldats, que ma présence ne troublait pas, à regarder aussi par la fenêtre. Ils ne m'en empêchèrent pas, ni ne se dérangèrent. Je vis le capitaine de Brodino passer majestueusement en faisant trotter son cheval, et semblant avoir l'illusion qu'il se trouvait à la bataille d'Austerlitz. Quelques passants étaient assemblés devant la grille du quartier pour voir le régiment sortir. Droit sur son cheval, le visage un peu gras, les joues d'une plénitude impériale, l'œil lucide, le prince devait être le jouet de quelque hallucination, comme je l'étais moi-même, chaque fois qu'après le passage du tramway, le silence qui suivait son roulement me semblait parcouru et strié par une vague palpitation musicale. J'étais désolée de ne pas avoir dit adieu à Saint-Loup, mais je partis tout de même, car mon seul souci était de retourner auprès de ma grand-mère. Jusqu'à ce jour, dans cette petite ville, quand je pensais à ce que ma grand-mère faisait seule, je me la représentais telle qu'elle était avec moi, mais en me supprimant, sans tenir compte des effets sur elle de cette suppression. Maintenant, j'avais à me délivrer au plus vite, dans ses bras, du fantôme, insoupçonné jusqu'alors et soudain évoqué par sa voix, d'une grand-mère réellement séparée de moi, résignée, ayant, ce que je ne lui avais encore jamais connu, un âge et qui venait de recevoir une lettre de moi dans l'appartement vide où j'avais déjà imaginé maman quand j'étais partie pour Balbec. Hélas, ce fantôme-là, ce fut lui que j'aperçus. Quand, entrai au salon sans que ma grand-mère fût avertie de mon retour, je la trouvais en train de lire. J'étais là, ou plutôt je n'étais pas encore là, puisqu'elle ne le savait pas. Et, comme une femme qu'on surprend en train de faire un ouvrage qu'elle cachera si on entre, elle était livrée à des pensées qu'elle n'avait jamais montrées devant moi. De moi, par ce privilège qui ne dure pas et où nous avons, pendant le court instant du retour, la faculté d'assister brusquement à notre propre absence, il n'y avait là que le témoin, l'observateur, en chapeau et manteau de voyage, l'étranger qui n'est pas de la maison, le photographe qui vient prendre un cliché des lieux qu'on ne reverra plus. Ce qui, mécaniquement, se fit à ce moment dans mes yeux quand j'aperçus ma grand-mère, ce fut bien une photographie. Nous ne voyons jamais les êtres chéris que dans le système animé, le mouvement perpétuel de notre incessante tendresse, laquelle, avant de laisser les images que nous présentent leurs visages arriver jusqu'à nous, les prend dans son tourbillon, les rejette sur l'idée que nous nous faisons d'eux depuis toujours, les fait adhérer à elles, coïncider avec elles. Comment ? Puisque le front, les joues de ma grand-mère, je leur faisais signifier ce qu'il y avait de plus délicat et de plus permanent dans son esprit. Comment ? Puisque tout regard habituel est une nécromancie, et chaque visage qu'on aime le miroir du passé, comment n'en eussé-je pas omis ce qui en elle avait pu s'alourdir et changer ? Alors que, même dans les spectacles les plus indifférents de la vie, notre œil, chargé de pensées, néglige, comme ferait une tragédie classique, toutes les images qui ne concourent pas à l'action et ne retient que celles qui peuvent en rendre intelligible le but. Mais qu'au lieu de notre œil, ce soit un objectif purement matériel, une plaque photographique qui est regardée. Alors, ce que nous verrons, par exemple dans la cour de l'Institut, au lieu de la sortie d'un académicien qui veut appeler un fiacre, ce sera sa titubation, ses précautions pour ne pas tomber en arrière, la parabole de sa chute, comme s'il était ivre ou que le sol fût couvert de verglas. Il en est de même quand quelque cruelle ruse du hasard empêche notre intelligente et pieuse tendresse d'accourir à temps pour cacher à nos regards ce qu'ils ne doivent jamais contempler, quand elle est devancée par eux qui, arrivés les premiers sur place et laissés à eux-mêmes, fonctionnent mécaniquement à la façon de pellicule, et nous montrent, au lieu de l'être aimé qui n'existe plus depuis longtemps, mais dont elle n'avait jamais voulu que la mort nous fût révélée, l'être nouveau que 100 fois par jour elle revêtait d'une chère et menteuse ressemblance. Et, comme un malade qui ne s'était pas regardé depuis longtemps, et composant à tout moment le visage qu'il ne voit pas d'après l'image idéale qu'il porte de soi-même dans sa pensée, recule en apercevant dans une glace, au milieu d'une figure aride et déserte, l'exhaussement oblique et rose d'un nez gigantesque comme une pyramide d'Égypte, moi, pour qui ma grand-mère, c'était encore moi-même, moi, qui ne l'avais jamais vue que dans mon âme, toujours à la même place du passé, à travers la transparence des souvenirs contigus et superposés. Tout d'un coup, dans notre salon qui faisait partie d'un monde nouveau, celui du temps, celui où vivent les étrangers dont on dit « il vieillit bien », pour la première fois, et seulement pour un instant, car elle disparut bien vite, j'aperçus sur le canapé, sous la lampe, rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant au-dessus d'un livre, des yeux un peu fous, une vieille femme accablée que je ne connaissais pas. À ma demande d'aller voir les Elstir de Madame de Guermantes, Saint-Loup m'avait dit « Je réponds pour elle ». Et malheureusement, en effet, pour elle, ce n'était que lui qui avait répondu. Nous répondons aisément des autres quand, disposant dans notre pensée les petites images qui les figurent, nous faisons manœuvrer celle-ci à notre guise. Sans doute même à ce moment-là, nous tenons compte des difficultés provenant de la nature de chacun, différente de la nôtre, et nous ne manquons pas d'avoir recours à tel ou tel moyen d'action puissant sur elle. Intérêt, persuasion, émoi, qui neutralisera des penchants contraires. Mais ces différences avec notre nature, c'est encore notre nature qui les imagine. Ces difficultés, c'est nous qui les levons. Ces mobiles efficaces, c'est nous qui les dosons. Et quand les mouvements que, dans notre esprit, nous avons fait répéter à l'autre personne et qui la font agir à notre gré, nous voulons les lui faire exécuter dans la vie, tout change. Nous nous heurtons à des résistances imprévues qui peuvent être invincibles. L'une des plus fortes est sans doute celle que peut développer en une femme qui n'aime pas le dégoût que lui inspire, insurmontable et fétide, l'homme qu'il aime. Pendant les longues semaines que Saint-Loup resta encore sans venir à Paris, sa tante, à qui je ne doutais pas qu'il eût écrit pour la supplier de le faire, ne me demanda pas une fois de venir chez elle voir les tableaux d'Elstir. Je reçus des marques de froideur de la part d'une autre personne de la maison. Ce fut de Jupien. Trouvait-il que j'aurais dû entrer lui dire bonjour à mon retour de Doncières avant même de monter chez moi? Ma mère me dit que non, qu'il ne fallait pas s'étonner. Françoise lui avait dit qu'il était ainsi, sujet à de brusques mauvaises humeurs, sans raison. Cela se dissipait toujours au bout de peu de temps. Cependant, l'hiver finissait. Un matin, après quelques semaines de giboulées et de tempêtes, j'entendis dans ma cheminée, au lieu du vent informe, élastique et sombre qui me secouait de l'envie d'aller au bord de la mer, le roucoulement des pigeons qui nichaient dans la muraille. Irisé, imprévu comme une première jacinthe, déchirant doucement son cœur nourricier pour qu'en jaillît, mauve et satinée, sa fleur sonore, faisant entrer comme une fenêtre ouverte dans ma chambre encore fermée et noire, la tiédeur, l'éblouissement, la fatigue d'un premier beau jour. Ce matin-là, je me surpris à fredonner un air de café-concert que j'avais oublié depuis l'année où j'avais dû aller à Florence et à Venise. Tant l'atmosphère, selon le hasard des jours, agit profondément sur notre organisme et tire des réserves obscures où nous les avions oubliées, les mélodies inscrites que n'a pas déchiffrées notre mémoire. Un rêveur plus conscient accompagna bientôt ce musicien que j'écoutais en moi, sans même avoir reconnu tout de suite ce qu'il jouait. Je sentais bien que les raisons n'étaient pas particulières à Balbec, pour lesquelles, quand j'y étais arrivé, je n'avais plus trouvé à son église le charme qu'elle avait pour moi avant que je la connusse. Qu'à Florence, à Parme ou à Venise, mon imagination ne pourrait pas davantage se substituer à mes yeux pour regarder. Je le sentais. De même, un soir du 1er janvier, à la tombée de la nuit, devant une colonne d'affiches, j'avais découvert l'illusion qu'il y a à croire que certains jours de fête diffèrent essentiellement des autres. Et pourtant, je ne pouvais pas empêcher que le souvenir du temps pendant lequel j'avais cru passer à Florence la semaine sainte ne continuât à faire d'elle comme l'atmosphère de la cité des fleurs, à donner à la fois au jour de Pâques quelque chose de florentin et à Florence quelque chose de pascal. La semaine de Pâques était encore loin. Mais, dans la rangée des jours qui s'étendaient devant moi, les jours saints se détachaient plus clairs au bout des jours mitoyens. Touchés d'un rayon, comme certaines maisons d'un village qu'on aperçoit au loin, dans un effet d'ombre et de lumière, ils retenaient sur eux tout le soleil. Le temps était devenu plus doux. Et mes parents eux-mêmes, en me conseillant de me promener, me fournissait un prétexte à continuer mes sorties du matin. J'avais voulu les cesser parce que j'y rencontrais Madame de Guermantes. Mais c'est à cause de cela même que je pensais tout le temps à ces sorties, ce qui me faisait trouver à chaque instant une raison nouvelle de les faire, laquelle n'avait aucun rapport avec Madame de Guermantes et me persuadait aisément que, n'eût-elle pas existé, je n'en eusse pas moins manqué de me promener à cette même heure. Hélas, Si pour moi rencontrer toute autre personne qu'elle eût été indifférent, je sentais que, pour elle, rencontrer n'importe qui excepté moi eût été supportable. Il lui arrivait, dans ses promenades matinales, de recevoir le salut de bien des sots, et qu'elle jugeait tels. Mais elle tenait leur apparition sinon pour une promesse de plaisir, du moins pour un effet du hasard. Et elle les arrêtait quelquefois, car il y a des moments où on a besoin de sortir de soi, d'accepter l'hospitalité de l'âme des autres, à condition que cette âme, si modeste et laide soit-elle, soit une âme étrangère. Tandis que dans mon cœur, elle sentait avec exaspération que ce qu'elle eût retrouvé, c'était elle. Aussi, même quand j'avais pour prendre le même chemin une autre raison que de l'avoir, je tremblais comme un coupable au moment où elle passait. Et quelquefois, pour neutraliser ce que mes avances pouvaient avoir d'excessif, je répondais à peine à son salut, ou je la fixais du regard sans la saluer, ni réussir qu'à l'irriter davantage et à faire qu'elle commençât en plus à me trouver insolent et mal élevé. Elle avait maintenant des robes plus légères ou du moins plus claires, et descendait la rue où déjà, comme si c'était le printemps, devant les étroites boutiques intercalées entre les vastes façades des vieux hôtels aristocratiques, à l'auvent de la marchande de beurre, de fruits, de légumes, des stores étaient tendus contre le soleil. Je me disais que la femme que je voyais de loin marcher, ouvrir son ombrelle, traverser la rue, était, de l'avis des connaisseurs, la plus grande artiste actuelle dans l'art d'accomplir ses mouvements et d'en faire quelque chose de délicieux. Cependant, elle s'avançait, ignorante de cette réputation éparse. Son corps étroit, réfractaire, et qui n'en avait rien absorbé, était obliquement cambré sous une écharpe de surat violet. Ses yeux maussades et clairs regardaient distraitement devant elle et m'avaient peut-être aperçu. Elle mordait le coin de sa lèvre. Je la voyais redresser son manchon, faire l'aumône à un pauvre, acheter un bouquet de violettes à une marchande, avec la même curiosité que j'aurais eue à regarder un grand peintre donner des coups de pinceau. Et quand, arrivée à ma hauteur, elle me faisait un salut auquel s'ajoutait parfois un mince sourire, c'était comme si elle eût exécuté pour moi, en y ajoutant une dédicace, un lavis qui était un chef-d'œuvre. Chacune de ses robes m'apparaissait comme une ambiance naturelle, nécessaire, comme la projection d'un aspect particulier de son âme. Un de ces matins de carême, où elle allait déjeuner en ville, je la rencontrai dans une robe d'un velours rouge clair, laquelle était légèrement échancrée au cou. Le visage de Madame de Guermantes paraissait rêveur sous ses cheveux blonds. J'étais moins triste que d'habitude, parce que la mélancolie de son expression, l'espèce de claustration que la violence de la couleur mettait autour d'elle et le reste du monde, lui donnait quelque chose de malheureux et de solitaire qui me rassurait. Cette robe me semblait la matérialisation autour d'elle des rayons écarlates d'un cœur que je ne lui connaissais pas et que j'aurais peut-être pu consoler. Réfugiée dans la lumière mystique de l'étoffe, aux flots adoucis, elle me faisait penser à quelques saintes des premiers âges chrétiens. Alors, j'avais honte d'affliger par ma vue cette martyre. Mais après tout, la rue est à tout le monde. La rue est à tout le monde, reprenais-je en donnant à ces mots un sens différent, et en admirant qu'en effet, dans la rue populeuse, souvent mouillée de pluie, et qui devenait précieuse comme est parfois la rue dans les vieilles cités de l'Italie, la duchesse de Guermantes mêlât à la vie publique des moments de sa vie secrète, se montrant ainsi à chacun, mystérieuse, coudoyée de tous, avec la splendide gratuité des grands chefs-d'œuvre. Comme je sortais le matin après être restée éveillée toute la nuit, l'après-midi, mes parents me disaient de me coucher un peu et de chercher le sommeil. Il n'y a pas besoin pour savoir le trouver de beaucoup de réflexions, mais l'habitude y est très utile, et même l'absence de la réflexion. Or, à ces heures-là, les deux me faisaient défaut. Avant de m'endormir, je pensais si longtemps que je ne le pourrais, que même endormi, il me restait un peu de pensée. Ce n'était qu'une lueur dans la presque obscurité, mais elle suffisait pour faire se refléter dans mon sommeil d'abord l'idée que je ne pourrais dormir, puis, reflet de ce reflet, l'idée que c'était en dormant que j'avais eu l'idée que je ne dormais pas, puis, par une réflexion nouvelle, mon éveil, à un nouveau somme où je voulais raconter à des amis qui étaient entrés dans ma chambre que, tout à l'heure en dormant, j'avais cru que je ne dormais pas. Ces ombres étaient à peine distinctes. Il eût fallu une grande et bien vaine délicatesse de perception pour les saisir. Ainsi, plus tard, à Venise, bien après le coucher du soleil, quand il semble qu'il fasse tout à fait nuit, j'ai vu, grâce à l'écho invisible pourtant d'une dernière note de lumière, indéfiniment tenue sur les canaux, comme par l'effet de quelques pédales optiques, les reflets des palais déroulés comme à tout jamais en velours plus noir sur le gris crépusculaire des eaux. Un de mes rêves était la synthèse de ce que mon imagination avait souvent cherché à se représenter pendant la veille, d'un certain paysage marin et de son passé médiéval. Dans mon sommeil, je voyais une cité gothique au milieu d'une mer aux flots immobilisés comme sur un vitrail. Un bras de mer divisait en deux la ville, l'eau verte s'étendait à mes pieds. Elle baignait sur la rive opposée une église orientale, puis des maisons qui existaient encore dans le XIVe siècle, si bien qu'aller vers elles, c'eût été remonter le cours des âges. Ce rêve où la nature avait appris l'art, où la mer était devenue gothique, ce rêve où je désirais, où je croyais aborder à l'impossible, il me semblait l'avoir déjà fait souvent. Mais, comme c'est le propre de ce qu'on imagine en dormant de se multiplier dans le passé, et de paraître, bien qu'étant nouveau, familier, je crus m'être trompé. Je m'aperçus au contraire que je faisais en effet souvent ce rêve. Les amoindrissements même qui caractérisent le sommeil se reflétaient dans le mien, mais d'une façon symbolique. Je ne pouvais pas, dans l'obscurité, distinguer le visage des amis qui étaient là, car on dort les yeux fermés. Moi, qui me tenais sans fin des raisonnements verbaux en rêvant, dès que je voulais parler à ses amis, je sentais le son s'arrêter dans ma gorge, car on ne parle pas distinctement dans le sommeil. Je voulais aller à eux, et je ne pouvais pas déplacer mes jambes, car on n'y marche pas non plus. Et tout à coup, j'avais honte de paraître devant eux, car on dort déshabillé. Tels les yeux aveugles, les lèvres scellées, les jambes liées, le corps nu, la figure du sommeil que projetait mon sommeil lui-même avait l'air de ces grandes figures allégoriques où Giotto a représenté l'envie avec un serpent dans la bouche et que Swann m'avait donné. Saint-Loup vint à Paris pour quelques heures seulement, tout en m'assurant qu'il n'avait pas eu l'occasion de parler de moi à sa cousine. « Elle n'est pas gentille du tout, Oriane !» me dit-il en se trahissant naïvement. « Ce n'est plus mon Oriane d'autrefois, on me l'a changée. Je t'assure qu'elle ne vaut pas la peine que tu t'occupes d'elle. Tu lui fais beaucoup trop d'honneur. « Tu ne veux pas que je te présente à ma cousine Poitiers ?» ajouta-t-il sans se rendre compte que cela ne pourrait me faire aucun plaisir. « Voilà une jeune femme intelligente et qui te plairait. Elle a épousé mon cousin, le duc de Poitiers, qui est un bon garçon, mais un peu simple pour elle. Je lui ai parlé de toi. Elle m'a demandé de t'amener. Elle est autrement jolie qu'Oriane, et plus jeune. C'est quelqu'un de gentil, tu sais. C'est quelqu'un de bien. » C'étaient des expressions nouvellement, d'autant plus ardemment, adoptées par Robert, et qui signifiaient qu'on avait une nature délicate. « Je ne te dis pas qu'elle soit dreyfusarde. Il faut aussi tenir compte de son milieu. Mais enfin, elle dit, s'il était innocent, quelle horreur ce serait qu'il fût à l'île du diable. Tu comprends, n'est-ce pas? Et puis enfin, c'est une personne qui fait beaucoup pour ses anciennes institutrices. Elle a défendu qu'on les fasse monter par l'escalier de service. Je t'assure, c'est quelqu'un de très bien. Dans le fond, Oriane ne l'aime pas parce qu'elle la sent plus intelligente. Quoique absorbé par la pitié que lui inspirait un valet de pied des Guermantes, lequel ne pouvait aller voir sa fiancée même quand la duchesse était sortie, car cela eût été immédiatement rapporté par la loge, Françoise fut navrée de ne s'être pas trouvée là au moment de la visite de Saint-Loup. Mais c'est qu'elle maintenant en faisait aussi. Elle sortait infailliblement les jours où j'avais besoin d'elle. C'était toujours pour aller voir son frère, sa nièce et surtout sa propre fille, arrivée depuis peu à Paris. Déjà, la nature familiale de ces visites que faisait Françoise ajoutait à mon agacement d'être privée de ses services, car je prévoyais qu'elle parlerait de chacune comme d'une de ces choses dont on ne peut se dispenser, selon les lois enseignées à Saint-André-des-Champs. Aussi, je n'écoutais jamais ses excuses sans une mauvaise humeur fort injuste et à laquelle venait mettre le comble la manière dont Françoise disait, non pas « J'ai été voir mon frère, j'ai été voir ma nièce. » Mais « J'ai été voir le frère, je suis entrée. » En courant, donner le bonjour à la nièce ou à ma nièce la bouchère. Quant à sa fille, Françoise eût voulu la voir retourner à Combray. Mais la nouvelle parisienne, usant comme une élégante d'abréviatifs, mais vulgaire, elle disait que la semaine qu'elle devrait aller passer à Combray lui semblerait bien longue sans avoir seulement l'intrant. Elle voulait encore moins aller chez la sœur de Françoise, dont la province était montagneuse. « Car les montagnes, » disait la fille de Françoise en donnant à « intéressant » un sens affreux et nouveau, « ce n'est guère intéressant. » Elle ne pouvait se décider à retourner à mes églises où le monde est si bête. Où, au marché, les commères, les pétrousses, se découvriraient un cousinage avec elle et diraient « Tiens, mais c'est-il pas la fille au défunt Basiro ?» Elle aimerait mieux mourir que de retourner se fixer là-bas, maintenant qu'elle avait goûté à la vie de Paris. Et Françoise, traditionnaliste, souriait pourtant avec complaisance à l'esprit d'innovation qu'incarnait la nouvelle parisienne quand elle disait « Eh bien, mère, si tu n'as pas ton jour de sortie, tu n'as qu'à m'envoyer un pneu. »